Bonjour à tous, vous êtes au bon endroit au bon moment. Je suis Lionel Camille, vous écoutez Disparu, le podcast des disparitions mystérieuses. Dans l'épisode précédent, on a étudié la possibilité d'une agression sur la route. Brandon Lawson se serait fait attaquer avec une autre personne par des individus à l'identité inconnue. On a déjà vu l'hypothèse de la police d'État et le scénario à la Mad Max. Troisième hypothèse maintenant, des membres d'une milice locale. Il faut se demander si Brandon aurait cru avoir affaire à des policiers d'État. Il a pu se tromper. Le Texas abrite des milices anti-gouvernementales et des groupes d'autodéfense, aux noms si variés que Republic of Texas ou Militia. Dans certaines bourgades, ces groupes armés ont décidé de se faire justice et défendre leurs terres eux-mêmes. Ces individus proches des mouvements d'extrême droite se promènent souvent en tenue paramilitaire, vêtus d'uniformes, ils ont des armes automatiques et des fusils d'assaut qu'ils portent en bandoulière. On les surnomme des strappers. Ce qui nous renvoie au terme qui aurait pu être utilisé par Brandon dans son fameux appel au 911. Donc ces strippers, comme on les surnomme, sont assez connus au Texas, enfin ceux qui ont grandi dans cet état. Ils utilisent certaines méthodes, comme notamment de patrouiller sur des routes la nuit à bord de puissants 4x4 ou de pick-up. Et s'ils estiment qu'une voiture est suspecte, ils obligent ces véhicules à s'arrêter. Donc si jamais un automobiliste visé refuse de s'arrêter, il utilise des méthodes assez musclées, il le pousse dans le fossé. Ce qui nous renvoie à l'expression utilisée par Brandon. Il avait dit que quelqu'un avait poussé d'autres personnes sur le côté. Donc en clair, Brandon Lawson, il aurait pu tomber en plein milieu d'une opération illégale organisée par des extrémistes locaux. Peut-être que des miliciens du coin avaient pris l'initiative de contrôler des voitures sur la route, sur la Highway 277. Peut-être qu'ils cherchaient des immigrés clandestins. On sait qu'il y a un problème avec ça là-bas. Il y a beaucoup de travailleurs en provenance du Mexique, notamment, qui tentent de passer aux États-Unis chaque année. C'est une activité à haut risque. Et la Highway 277, elle mène directement à la frontière mexicaine, à seulement 260 km au sud. Donc pour moi, c'est tout à fait possible qu'il y ait un scénario de ce type. Peut-être que ces paramilitaires comptaient dans leur rang aussi un ancien tireur d'élite de l'armée, parce que certaines personnes pensent entendre aussi le mot « sniper » au lieu de « staper ». Et c'est lui qui, je pense, aurait tiré à distance sur Brandon et son compagnon. Quatrième hypothèse, les snipers psychopathes. Donc cette théorie, c'est une variante de celle de la milice locale. Donc, je pense qu'après son accident, Brandon Lawson, il est en train d'attendre près de son véhicule. Quand il y a un homme qui arrive en courant sur la route, le premier gars, voilà. L'individu, c'est peut-être un clandestin mexicain ou un gars de ce type. Il est en panique parce qu'en fait, il est pourchassé par un duo de snipers psychopathes. Ils sont au moins deux parce que Brandon dit « on ne leur parle pas ». Il utilise le mot « leur ». Ce sont possiblement des anciens militaires, ou à moins que ce soit des chasseurs ou des braconniers. Donc moi, dans ce scénario, je pense qu'il est possible que ces deux gars, qui étaient au moins deux, ils étaient équipés d'appareils de vision nocturne et de fusils et lunettes, et que surtout, ils circulaient sur des motocross ou à bord d'un 4x4, en dehors de la highway. Pour ça que ni Neil ni Kyle n'a vu quoi que ce soit sur la route. Ça serait un scénario en fait qui ressemblerait un peu à celui du film américain La chasse du comte Zaroff, voilà, sorti en 1934, voilà pour les cinéphiles, dans lequel en fait c'est un russe fortuné qui chasse le plus intelligent de tous les gibiers, l'homme. Donc Brandon et l'homme en détresse, le premier gars entre guillemets, ils sont pris en chasse tous les deux et ils s'enfuient ensemble et ils sont traqués par les deux tarés à travers la zone sauvage. Lors de l'appel au 911, Brandon, il emploie le mot sniper parce qu'on leur tire dessus à distance. Il sait pas à qui il a affaire, en fait. Donc Brandon et puis le premier gars, ils se font tirer dessus comme des lapins. Je pense que le premier gars se fait descendre, comme le dit Brandon, et que Brandon, il a aussi reçu une balle. Il a reçu une balle, mais il parvient à s'échapper, mais il est blessé. Donc il utilise son téléphone portable la dernière fois pour appeler son frère à 1h18 du matin, mais la communication est rapidement coupée en l'absence de réseau. C'est pour ça qu'il dit notamment aussi à Audrey qu'il saigne, parce qu'il a reçu une balle, quoi. Il a reçu un projectile. Par la suite, il ne peut plus rentrer en contact avec ses proches. Brandon erre dans la nuit et il finit par mourir, seul, quelque part. Il est aussi possible que les chasseurs, enfin les gars qui en avaient après lui, le retrouvent plus tard et emportent son cadavre. C'est pour cette raison qu'on ne l'a jamais retrouvé. Donc ce scénario est particulièrement intéressant parce que en fait toute l'action s'est déroulée en dehors de la Highway 277, à l'abri des regards. Ça explique pourquoi Neil et Kyle n'ont rien remarqué d'anormal en arrivant sur place. Aucune activité, aucun véhicule non identifié. Donc même si les snipers, enfin les deux tarés n'ont pas emporté le corps de Brandon, il est peut-être possible qu'on n'ait jamais récupéré sa dépouille parce qu'il était très loin du lieu de la panne. À 1h48, 30 minutes après son dernier appel à Kyle, le téléphone de Brandon a laissé un ping à environ 5 km vers le fleuve Colorado, rappelez-vous. Brandon était possiblement très très loin. Et une fois encore, c'est cohérent parce qu'à la fin de l'appel au 911, on croit discerner en arrière-plan sonore trois bruits sourds qui ressemblent à une voiture qui passe sur un pont de planche. Brandon était-il à proximité d'un ancien pont en bois au-dessus du Colorado? Toutes les pièces du puzzle semblent s'emboîter. Donc pour moi, ce scénario de l'agression au bord de la route, imprévue, brutale, est intéressante. Mais il y a d'autres théories. Théorie suivante, le règlement de compte. Donc on l'a déjà dit, même si sa famille passe cette information sous silence, il faut quand même rappeler que Brandon était quand même un ancien dealer. Donc accordons-lui le bénéfice du doute. Il avait certainement cessé toutes ses activités illégales, mais son passé aurait pu le rattraper. Peut-être que Brandon avait encore des vieilles dettes à régler, parce que s'il a été arrêté en possession de drogue à l'époque, les policiers lui ont obligatoirement saisi sa marchandise qui pouvait appartenir à un grossiste. Un an plus tôt, Brandon a peut-être quitté la région de Fort Worth pour échapper à ses créanciers. Bon, c'est peut-être aussi pour ça qu'il a déménagé. Il est venu s'installer à San Angelo, mais peut-être que ses mauvaises fréquentations ont fini par le retrouver à San Angelo. Il y a aussi un détail qui me taraude, c'est qu'on ignore le motif véritable de la dispute entre Brandon et l'ADESA ce soir-là. Et si Brandon avait annoncé à l'ADESA qu'il devait revoir ses anciens associés? Si l'ADESA n'était pas d'accord, ça expliquerait pourquoi ils ont échangé des mots durs, pourquoi ils se sont disputés. Peut-être que Brandon était confus, comme l'a dit l'ADESA, parce qu'il était excessivement nerveux. Peut-être qu'il était pris à la gorge, il avait ses gars qui étaient à ses trousses, il savait pas comment s'en débarrasser, comment sortir de ce guépier. Donc voilà, c'est pour ça que ça s'est mal passé, la conversation, ça a dégénéré. Et j'ai aussi noté un problème de timing, c'est qu'en fait, il s'est écoulé environ 45 minutes entre le départ de Brandon et son appel à son frère. Or, la durée de trajet entre son domicile de San Angelo et le lieu de la panne ne dépasse pas une demi-heure. Question, qu'a fait Brandon pendant ce battement de 15 minutes? Est-ce qu'il avait rendez-vous avec ses anciens amis? Dans l'affirmatif, ça se serait mal passé. Incapable de rembourser tout l'argent qu'il devait, Brandon se serait enfui à bord de son pick-up. Dans un premier temps, il aurait réussi à semer ses poursuivants, mais manque de chance, il serait tombé en panne sur la Highway 277, et les criminels l'auraient retrouvé. Cette thèse est pertinente, mais elle présente un écueil. Quand on écoute l'appel au 911, on a vraiment le sentiment que Brandon ne connaît pas l'identité de ses agresseurs. Sinon, il aurait donné leur nom. Donc il n'était pas sûr que ce soit potentiellement des anciens associés, des anciens grossistes, des anciennes personnes qui évoluaient dans le milieu de la drogue. Voilà, c'est pour cette raison qu'on va passer à la théorie suivante. la piste familiale. C'est la dernière théorie. Une théorie assez intéressante, je trouve. Ne tournons pas autour du pot, le comportement de Kyle et Audrey dans la nuit du 8 au 9 août 2013 n'est pas très clair. D'abord, pourquoi Audrey a-t-elle accompagné Kyle au milieu de la nuit ? Bah oui, en fait, il s'agissait juste de lui porter de l'essence, donc c'est assez surprenant qu'elle soit venue. En plus, plus tard, bah Audrey, la petite amie donc de Kyle, va parler à Brandon. Ce dernier lui annonce qu'il saigne et elle, lui demande pas ce qui lui est arrivé. Un tel manque de curiosité est incompréhensible pour moi. Pire, l'adjoint Neil était sur place au même moment. Sachant que Brandon saignait, quelque part dans les environs, pourquoi Kyle et Audrey n'ont-ils pas prévenu le policier ? Vous me répondrez le mandat. Et vous aurez raison, seulement le prétexte du mandat me paraît léger. En cas d'urgence vitale, le mandat aurait dû passer au second plan. J'ai la nette impression que Kyle et Audrey n'ont pas tout dit. Pour quelle raison ? Qu'essayent-ils de cacher ? Le comportement de l'Adessa Lofton pose également question. Je ne fais que soulever ces questions, ces interrogations. On va citer quelques exemples. L'Adessa n'est pas restée à son domicile les vendredis 9 et samedi 10 août 2013. Rappelez-vous, elle avait pris une chambre au Country Inn de Bronte. Et c'est un peu surprenant quand même parce que c'est comme si elle savait que Brandon ne reviendrait pas à leur domicile. Elle revient pas pendant 2 jours chez elle. Et si Brandon était revenu, voilà, elle aurait pu rester chez elle pour au cas où il serait revenu. Bon, ça a surpris un peu certaines personnes, je peux comprendre. D'autres observateurs se sont aussi étonnés que l'Adessa ait déclaré très vite, voire trop vite, être convaincue que son compagnon était décédé. Et 6 semaines après la nuit du drame, l'Adessa, elle a quitté la région. Donc elle a déménagé de San Angelo, et elle est retournée dans la région de Fort Worth pour se rapprocher de sa famille, selon ses propres dires. Pourquoi pas ? Mais bon, c'est vrai que y a quand même des gens du coin qui ont jugé ce départ un peu précipité. Autre exemple du comportement de l'Adessa qui pose un peu question, c'est que juste après les événements, donc il y a une page de soutien à Brandon qui a été créée sur Facebook, hein, Help Find Brandon Lawson. Il y a plusieurs internautes qui ont fait remarquer que certains commentaires postés au début de l'affaire ont été supprimés. Et que la chronologie et la version des faits ont changé à plusieurs reprises. Il y a une amie de l'Adessa qui occupait la fonction d'administratif de la page Facebook, qui a été apparemment virée, sans raison, enfin, c'est pas très clair. Aurait-elle dit des choses qui déplaisaient à l'Adessa ? Donc l'Adessa Lofton, maintenant, c'est vrai qu'elle contrôle désormais étroitement toutes les informations relatives à l'affaire sur les réseaux sociaux. Je peux comprendre aussi, c'est une façon aussi d'éviter qu'on raconte n'importe quoi sur l'affaire. Mais il y a des personnes qui posent des questions légitimes qui ont été bloquées sur Facebook. Est-ce que c'est par une simple volonté de protéger sa vie privée ? C'est possible, hein. Sauf que l'Adessa Lofton n'est pas une sainte. En 2012, elle a été épinglée pour fraude à l'aide sociale. J'ai trouvé cette information. Elle avait notamment déclaré être mère célibataire. Alors qu'elle vivait avec Brandon à l'époque, elle aurait fait ça dans le but d'obtenir des bons alimentaires. Alors on n'est pas là pour juger ou quoi que ce soit, mais l'Adessa a quand même démontré qu'elle était capable de mentir. Hein. On va être très clair, il y a des personnes qui ont avancé l'idée que Brandon n'a jamais quitté son domicile de San Angelo ce soir-là, qu'il aurait été tué chez lui et que la panne d'essence et l'appel au 911 ne seraient qu'une mise en scène. Alors si cette théorie peut paraître un peu tirée par les cheveux, mais bon, il faut quand même l'évoquer. Il faut vraiment aller au bout de ce dossier. C'est vrai qu'il est dans le domaine du possible que l'explication de la disparition de Brandon se réduise à une simple rivalité amoureuse. Quand on observe les événements de cette soirée, il y a quand même beaucoup de coups de fil entre Kyle et l'Adessa lors de cette soirée tragique. Kyle paraissait très proche de l'Adessa. Entretenait-il une liaison avec elle ? Et si cette relation adultère avait été la cause de la violente dispute entre Brandon et sa compagne ? Après tout, Encore une fois, on ignore le motif exact de leur dispute ce soir-là. Et notez, c'est important selon moi, que différents termes ont été employés pour décrire l'incident. C'est le terme fight qui a été utilisé, qui signifie bagarre ou lutte. Et ensuite, j'ai remarqué qu'on a utilisé le terme argument, qui veut dire dispute. Donc, difficile d'interpréter vraiment le terme. Autre question, très concrète, pourquoi Kyle a-t-il éprouvé le besoin d'aller tout de suite vérifier que la DSA allait bien, entre guillemets? Ça, c'est vraiment dans les déclarations officielles. Et il faut aussi avouer qu'en plus, Kyle Lawson n'a pas très très bonne réputation. Donc il faut prendre la déclaration suivante avec la précaution nécessaire. Mais il y a un internaute qui a déclaré qu'il avait connu Kyle, jeune, et qu'à l'époque, Kyle il vendait de la drogue à l'école. Et cet internaute, qui apparemment n'aimait pas beaucoup Kyle, l'a décrit comme un « white trash loser ». C'est-à-dire un jeune blanc peu éduqué, avec un casier judiciaire et consommateur de produits stupéfiants. Difficile de savoir quoi penser. Mais bon, allons au bout du scénario. Peut-être que Brandon s'est rendu compte ce soir-là qu'il y avait quelque chose entre l'ADSA, sa compagne, et son frère, Kyle. Et puis il y a une dispute et que voilà, ils en viennent aux mains dans la soirée. Bon, même si on imagine mal l'ADSA dominait physiquement Brandon, qui était très costaud, elle a pu prendre une arme à feu ou un couteau, une arme, et le blesser mortellement. Même involontairement, enfin bref, dans le feu de l'action. Juste après, elle se rend compte voilà, qu'elle a tué Brandon, et elle appelle ensuite Kyle, tout de suite, pour qu'il vienne l'aider. Donc là, Kyle vient... non pas pour s'assurer que tout va bien, qu'elle va bien, mais pour nettoyer la maison, par exemple. Par la suite, ils inventent toute cette histoire de fuite et de panne d'essence. C'est une mise en scène. Et après tout, personne ne sait si c'est réellement Brandon qui a passé l'appel au 911. C'est son appareil, bien sûr, mais Kyle a pu se servir de son smartphone. Bradley Lawson, le père de Brandon, il n'a pas reconnu avec certitude la voix de son fils. Ça, c'est important. Pour finir, il faut souligner qu'il n'est pas rare que des frères aient le même timbre de voix. Bien sûr, il ne s'agit que d'un faisceau d'indices, on est vraiment au stade de la théorie, là. À ce stade, on ne peut pas porter d'accusation contre quiconque, parce que c'est quand même assez grave. On sait que Kyle a déjà menti par omission dans cette affaire. Rappelez-vous qu'il n'avait pas dit toute la vérité à Neil, l'adjoint, quand il est arrivé sur place. Donc s'il n'a pas dit la vérité sur un point, on peut mettre en doute toutes ses autres déclarations. La police s'est apparemment intéressée à Kyle Lawson, puisqu'il a été soumis 4 fois au polygraphe, détecteur de mensonges. Le frère de Brandon est reparti libre. Donc peut-être qu'il était innocent. C'est possible. Était innocent ou alors faute d'éléments suffisants, on n'en sait rien. De toute façon, les résultats de test du polygraphe ne peuvent pas être utilisés devant un tribunal aux États-Unis. Et dernière information qui est aussi un peu troublante quand même, c'est que, et même si ça ne prouve rien, Kyle Lawson a quitté San Angelo un mois plus tard, lui aussi, donc il est parti. Comme la DSA. Voilà, chers auditeurs, on en arrive à la fin de l'émission sur l'affaire de la disparition mystérieuse de Brandon Lawson. Le gros problème de ce dossier, pour moi, c'est qu'il repose essentiellement sur des informations déclaratives. Le contenu des conversations téléphoniques entre les différents protagonistes est sujet à caution. Et au fond, l'appel au 911 est la seule information fiable. C'est vrai que, en dehors de l'enregistrement audio, tous les propos de Brandon Lawson cette nuit-là ont été rapportés oralement. Ils doivent être accueillis vraiment avec la prudence nécessaire. Le récit des événements survenus dans la nuit du 8 au 9 août 2013 comporte beaucoup de trous et de zones d'ombre. La chronologie des faits elle-même est à géométrie variable. Ce dossier comporte tellement de pistes à suivre et d'inconnus qu'il est impossible à résoudre au stade actuel de nos connaissances. En tout cas, je considère que les torts sont partagés. En dépit de ses faibles moyens et de sa mauvaise volonté, je pense que le bureau du shérif du comté de Cork a fait son travail quand même. Bon, il est certain que les policiers ont manqué d'empathie et que la femme du shérif, Madame Kutchen, a été maladroite. Ça c'est sûr. Cependant, je pense que tout n'a pas été dit dans cette affaire, notamment par les proches de Brandon, surtout son frère Kyle et sa petite amie Audrey, qui sont les dernières personnes à avoir parlé à Brandon. Quant à Ladessa Lofton, elle réclame la vérité. Je peux le comprendre, mais a-t-elle dit elle-même tout ce qu'elle savait ? Je n'insinue pas que la famille Lawson ait joué un rôle actif dans cette disparition. Cependant, ce manque de transparence nuit, pour moi, gravement à la manifestation de la vérité. C'est pour ça que je considère que, dans ce dossier, les seules véritables victimes sont les enfants de Brandon Lawson. Quatre êtres innocents qui méritent de savoir un jour ce qui est arrivé à leur père. Voilà, chers auditeurs, c'est la fin de cette émission exceptionnelle sur l'affaire de la disparition mystérieuse de Brandon Lawson. J'espère que vous avez apprécié. Donc cette affaire est tirée de mon nouveau livre « Disparu en ville, 20 histoires vraies et mystérieuses ». Donc ce livre vient de sortir, il est disponible sur Amazon. Il est très facile à trouver, vous tapez Lionel Camille « Disparu ville » dans Google, vous trouverez les liens. Alors il est en exclusivité sur Amazon, voilà, mais bon, le port est gratuit. Maintenant je vais vous lire la quatrième de couverture pour vous présenter rapidement ce livre. Chaque année, des personnes disparaissent en zone urbaine dans des circonstances étranges. Elles se volatilisent parfois en plein jour, au milieu de la foule. Et les téléphones portables, caméras de surveillance et GPS n'y changent rien. La plupart du temps, on ne les retrouve jamais, et la police est perplexe. Où sont passés tous ces gens ? Que leur est-il arrivé ? Un étudiant qui rentre dans un bar et qu'on ne voit jamais ressortir. Une famille en voiture qui s'évapore sur la route un soir de Noël. Un jeune homme qui disparaît en quelques secondes alors que sa fiancée arrive au coin de la rue. Une femme qui se volatilise après avoir apparemment interagi avec des êtres invisibles. Un disparu qui laisse un message téléphonique sur lequel on entend des grognements inhumains. Auteur spécialiste en disparition mystérieuse, moi, Lionel Camille, je vous raconte 20 histoires terrifiantes et absolument authentiques. Après avoir décrypté pour vous ces affaires, la plupart du temps non élucidées, je passe en revue les différentes explications possibles. Car quand les meilleurs enquêteurs et experts de la police scientifique ont échoué dans leur devoir de justice, on se doit de continuer à chercher la vérité.